Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, vendredi 10 mai 2019. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. La revue suivante, vous allez écouter Magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette mission, nous allons également présenter une chanson indonésienne. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal. Et chers amis, soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'introduction des valeurs de Pancasila doit être commencée depuis tôt pour éviter la guerre. Le ministère de l'Environnement et des Forêts s'attend à ce que la référence à la norme nationale indonésienne soit appliquée à la gestion du tourisme naturel. L'Indonésie souligne l'importance de la protection mondiale des récifs coralliens. Le gouverneur Oli a rencontré le directeur exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies. Selon le ministère de l'Intérieur, le déplacement de la capitale encourage la propagation de la population. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministre indonésien de la Défense, M. Riamizar Triakudu, a déclaré que le développement technologique et l'ouverture d'informations étaient très rapides et massifs, ce qui permet de changer directement ou indirectement l'état d'esprit de la jeune génération. Pour répondre à ces défis, il est nécessaire que le peuple indonésien a aimé et à mettre en pratique les valeurs de Pancasila. Cela a été dit par le ministre Riamizar Triakudu au symposium sur la menace de la guerre des mentalités à l'ère de la transparence de l'information tenu au ministère de la Défense à Jakarta récemment. Selon lui, l'introduction des valeurs de Pancasila dès le plus jeune âge est très important pour que la jeune génération connaisse l'idéologie de la nation et de l'État indonésien. Ce qui est important pour nous, c'est la fermeté. La confiance en Pancasila est numéro un. Et en effet, cet apprentissage doit commencer dès l'enfance. C'est coordonné avec le ministère de l'Éducation et de la Culture, et le ministère de la Recherche et de la Technologie et de l'Enseignement supérieur. J'ai appelé 300 recteurs pour informer leurs étudiants. Le ministre de la Défense, M. Riamizar Triakudu, a également déclaré que la guerre de l'esprit liée à la technologie Internet était très dangereuse et une menace pour l'État. Par conséquent, des efforts concrets et complets sont nécessaires de la part de toutes les parties prenantes et de tout le peuple indonésien pour créer des synergies et résister à toutes les formes de menaces de guerre et l'état d'esprit négatif et destructif. Le ministère de l'Environnement et des Forêts ainsi que l'Agence nationale indonésienne de la normalisation soutiennent le développement dans le secteur du tourisme naturel et respectueux de l'environnement durable. Cela se fait en développant un système d'évaluation de la conformité qui peut être utilisé en tant qu'instrument de la surveillance faisant référence à la norme nationale indonésienne ou SNI. Nur Adi Wardoyo, le chef du Centre de normalisation pour l'environnement et les forêts du ministère de l'Environnement et des Forêts, après le lancement du développement du système d'évaluation de la conformité de la normalisation nationale indonésienne pour la gestion du tourisme naturel à Jakarta a espéré que SNI pourra être appliquée de gérer le tourisme naturel en cours de promotion.
Begini, kami pernah sosialisasikan SNI ini di hari konservasi gitu ya.
Nous avions déjà socialisé la norme nationale indonésienne ou SNI à la journée de la conservation en 2017. À ce moment-là, la direction de l'agence touristique a déclaré que la plupart d'entre eux avaient déjà participé et ils les avaient pour la plupart remplis, mais comment montrer qu'ils l'avaient fait? S'ils se déclarent, il semble qu'ils aient satisfait à la norme. Mais quand ils sont comparés entre les parcs nationaux, il peut y avoir qui pratiquent mieux que d'autres. Nous faisons de la SNI comme référence commune et nous encouragerons tous les parcs nationaux à démontrer qu'ils respectent ces normes et peuvent conduire à une amélioration durable. Nour Adi Wardoyo espère également que le lancement de développement de systèmes d'évaluation de la conformité peut devenir une dynamique pour la mise en œuvre de la normalisation nationale indonésienne sur une base nationale. Compte tenu, le tourisme naturel est devenu l'un des piliers majeurs du secteur du développement national. L'Indonésie a souligné l'importance de la protection des récifs coralliens lors d'un forum mondial des ministres de l'Environnement tenu à Metz, la France, la première semaine de mai 2019. Le personnel expert du ministre des Affaires maritimes et de la pêche, M. Suseno Sukoyono, a déclaré dans une conférence de presse à Jakarta jeudi que l'Indonésie transmettra les réalisations et les plans futurs sous la présidence conjointe de l'Indonésie, Monaco et l'Australie dans l'organisation de l'Initiative internationale pour les récifs coralliens, ou ICRI, ainsi qu'un partenariat unique entre le gouvernement des organisations internationales et des organisations non gouvernementales pour la protection durable des récifs coralliens et des écosystèmes connexes. Selon M. Suseno, l'initiative de promotion de la coopération de ICRI a reçu le soutien de pays membres du G7 et d'autres pays tels que Norvège, l'Inde, Égypte, Grande-Bretagne, Fidji et Mexique. Il a également déclaré que le G7 apprécie le leadership de l'Indonésie au sein de l'initiative internationale pour les récifs coralliens en tant que preuve concrète du soutien de l'Indonésie dans la lutte contre les inégalités dans le monde via des efforts réels de protection contre la destruction de la biodiversité et le changement climatique. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le gouverneur de Sulawesi du Nord, Oli Dondo Kambei, a rencontré récemment en Espagne le directeur exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies, Zhu Zhanzong, pour discuter du développement du tourisme dans le nord de Sulawesi. Comme indiqué par Antara, Christian, chef de relations publiques du gouvernement provincial de Sulawesi du Nord, à Manado, a déclaré jeudi qu'à cette occasion, l'Organisation mondiale du tourisme de l'ONU avait ouvert son aide pour développer le tourisme durable dans le Sulawesi du Nord par l'intermédiaire de l'observateur de l'Organisation mondiale du tourisme. Christian a ajouté que le gouverneur Oli avait apprécié cette opportunité parce que, avec l'aide de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies, cela encouragerait le développement du tourisme dans le nord de Sulawesi. Le ministère indonésien de l'Intérieur estime que le déplacement du capital d'État encouragera la propagation de la population, qui jusqu'à présent la majorité est concentrée sur l'île de Java. Comme cité par Antara, le directeur général par intérim de l'autonomie régionale du ministère de l'Intérieur, M. Akmal Malik, a déclaré que 57% de la population indonésienne vivait à Java. Cependant, le reste étant réparti à Sumatra, Sulawesi, Kalimantan et Papouasie. Selon lui, à Jakarta jeudi, le déplacement de la capitale a encouragé la propagation de la population en tant qu'agent de l'économie, si bien que le développement sera plus une fermement reparti. C'était le journal de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Serviteur, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre « Sauver l'accord de JCPOA ». Après que les États-Unis aient unilatéralement renoncé à l'accord sur le plan d'action global conjoint ou JCPOA l'année dernière, l'Iran était déçu par le fait qu'il se sentait de plus en plus pressé dans son dossier nucléaire. Même si l'Iran est inclus dans cet accord avec l'espoir que les sanctions contre le pays seront allégées. Mais ces derniers jours, l'Iran a menacé de relancer son programme nucléaire après la présence d'équipements militaires américains dans la région du Golfe. Les États-Unis ont fait valoir qu'ils envoyaient des porte-avions et des avions bombardiers en raison d'une sorte d'indication et d'avertissement de l'Iran. Les États-Unis ont également déterminé à se venger à pleine puissance contre chaque forme d'attaque. Mais l'Union européenne cherche à atténuer le ressentiment de l'Iran. Ce groupe de pays européens considère toujours le JCPOA comme une solution au problème du développement du nucléaire iranien. L'Union européenne a également rejeté la menace de Téhéran. Les dirigeants européens ont suggéré à l'Iran de poursuivre ses engagements conformément au JCPOA et de s'abstenir de tensions croissantes avec les États-Unis. L'Union européenne est déçue des sanctions imposées par les États-Unis et continue d'établir la coopération commerciale avec l'Iran. Il y a un an, le président Donald Trump a ignoré l'accord JCPOA et a imposé des sanctions à l'Iran. Les États-Unis demandent à tous les pays d'acheter du pétrole à l'Iran. La prochaine sanction est l'interdiction du fer, de l'acier, de l'aluminium et du cuivre. Cette sanction a contrarié Téhéran, bien que les États-Unis aient imposé des sanctions. L'Union européenne entame toujours des relations commerciales avec l'Iran. Le furieux de l'Iran est naturel, car le pays tient toujours ses engagements dans le cadre de JCPOA. L'Union européenne continue également de croire l'Iran dans la mise en œuvre de JCPOA. Si l'Europe y croit toujours, les États-Unis devraient également ouvrir la possibilité de revenir à l'accord et ne pas faire pression l'Iran sur la question nucléaire. L'Amérique est ambiguë à cet égard, faisant pression sur l'Iran mais autorisant secrètement l'Israël, son principal partenaire au Moyen-Orient, à développer le programme. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Chers amis, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 10 mai. Le 10 mai 1940, les forces allemandes ont attaqué la France, la Belgique et les Pays-Bas. De façon inattendu, l'Allemagne envahit la France, la Belgique et les Pays-Bas. Les Pays-Bas et la Belgique sont accablés par la tactique Blitzkrieg, soit la guerre éclair, qui se passe très rapidement. Blitzkrieg est une stratégie militaire dans laquelle les forces allemandes attaquent rapidement à partir de divers éléments. Les forces armées allemandes combinent et coordonnent leurs forces aériennes, navales et terrestres. Des attaques soudaines, rapides et inattendues ont provoqué un sentiment de panique dans les forces de défense françaises, belges et néerlandaises. Le concept de la stratégie de la guerre éclair en général est toujours appliqué par les militaires. Le 10 mai 1994, Nelson Mandela a été nommé premier président noir de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela a été élu président et a exercé les fonctions de président de l'Afrique du Sud du 10 mai 1994 au 14 juin 1999. Mandela est devenu le premier président noir avec Willem de Klerk en tant que vice-président. Mandela est également considéré comme une figure anti-discrimination pour les Noirs ou l'apartheid, bien qu'il a été emprisonné pendant 27 ans par le gouvernement de l'apartheid Dans son premier discours en tant que président, Mandela a en réalité appelé à la paix. Le gouvernement Mandela s'est concentré sur les efforts visant à éliminer l'apartheid en luttant contre le racisme, la pauvreté, les inégalités et la réconciliation. Le 10 mai, la Journée mondiale du lupus. La Journée mondiale du lupus, commémorée tous les 10 mai, a été annoncée pour la première fois le 10 mai 2004, lorsque le Conseil international a réuni des organisations internationales spécialisées dans le lupus de 13 pays différents à Eton, en Angleterre, pour célébrer le premier anniversaire de la Journée mondiale du lupus. Cette annonce a pour but de rappeler aux gouvernements du monde entier d'accroître leur soutien financier à la recherche sur le lupus, de sensibiliser davantage les patients et d'offrir des services à ces personnes. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Jika wangimu saja bisa memindahkan duniaku, maka cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi.
Sama jatuh cinta.
Vous écoutez La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée Deuxième fois, chantée par Reza. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.wonews.id. Chers amis, écoutons maintenant la rubrique Mon Indonésie.
Serviteur, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie et l'Argentine renforcent leur coopération commerciale. Le vice-président de la République d'Indonésie, Yusuf Kalla, a reçu la visite officielle de la vice-présidente argentine, Gabriela Michetti, au palais du vice-président à Jakarta le 7 mai 2019. C'est une première visite de la vice-présidente argentine en Indonésie depuis l'ouverture des relations diplomatiques le 30 juin 1956. Au cours de la réunion, les deux vice-présidents ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement et de l'agriculture. Le vice-président Yusuf Kalla a déclaré que l'Argentine était le deuxième plus grand partenaire commercial de l'Indonésie dans la région de l'Amérique du Sud et que l'Indonésie souhaitait continuer à accroître ses échanges commerciaux avec l'Argentine. Yusuf Kalla expliquait qu'en 2018, le commerce total entre les deux pays atteignait 1,68 milliards avec un déficit d'1,2 milliard du côté indonésien. Il a encouragé l'Indonésie à instaurer un commerce plus équilibré et mutuellement bénéfique. Pour atteindre, l'Indonésie propose à l'Argentine des produits industriels stratégiques, à savoir des aéronefs fabriqués par PT Dirgantara Indonesia. En outre, Yusuf Kalla a également demandé à l'Argentine de continuer à réduire diverses barrières commerciales, tant tarifaires que non tarifaires. Afin d'équilibrer la balance commerciale, Yusuf Kalla a demandé l'accès au marché pour les fruits indonésiens tels que les fruits tropicaux et les noix, qui sont compétitifs sur le marché argentin. Pour améliorer les relations commerciales, Yusuf Kalla a invité des hommes d'affaires argentins à participer aux activités du Forum des entreprises et du Trade Expo Indonesia entre l'Indonésie, l'Amérique latine et les Caraïbes. Dans le secteur de l'agriculture, l'Indonésie et l'Argentine ont mis en place un groupe de travail sur la coopération agricole qui a élaboré un plan d'action de coopération. Dans ce domaine, l'Indonésie souhaite développer une coopération liée au développement de systèmes de technologie agricole. Cela a été bien accepté par la vice-présidente Gabriela Michetti, qui a reconnu le grand potentiel de coopération dans le domaine du commerce et de l'investissement et a souhaité traduire ce potentiel en forme de coopération stratégique. Michetti souhaite spécifiquement encourager la coopération technique dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Elle est optimiste que la coopération technique entre les deux pays est la porte à une coopération accrue. Le vice-président Michetti a également exprimé son désir de coopérer avec l'Indonésie dans le secteur de l'industrie alimentaire halal. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Cinta padamu sejak pertama kita bertemu, dia menguni relung hati, kau tak pernah peduli. Tuhan, mengapa kau yang tak mungkin untuk bersatu, kau yang telah lama ku cintai, ada yang memiliki cinta sejati.
lukisan cinta ini. Jalan hidup telah membuat kita harus senantiasa bersama. Lewati segala suka duka, tiada cinta bicara. Cinta sejati tak akan pernah mati, selalu menghiasi ketulusan cinta.
Voice of Indonesia.
C'était la deuxième chanson intitulée Vrai Amour, chantée par Ari Lasso. Chers amis, soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.bonus.id. Chers amis, écoutons maintenant Magazine Culturel. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter un magazine culturel intitulé La soupe de Senerek. Magelang, l'une des villes de la province du centre de Java, possède le charme et la beauté naturelle. Il n'est pas étonnant que cette ville soit l'une des destinations touristiques les plus préférées du centre de Java. En tant que l'une des destinations touristiques les plus préférées dans cette province, Magelang a une variété d'objets touristiques tels que le site culturel, le site historique, la colline, le parc et la cascade, y compris une variété de délicieux plats de Magelang. L'un d'entre eux est la soupe de Senerek. La soupe Senerek est l'un des menus de l'époque coloniale néerlandaise en Indonésie. Senerek est tiré du mot sner, qui signifie en néerlandais poids. Par la communauté locale, la soupe de snert a ensuite été modifiée avec des ingrédients plus faciles à obtenir, à savoir des haricots rouges avec des légumes complémentaires tels que les carottes, les épinards et les poireaux. En plus d'utiliser l'ail comme marinade, cette soupe utilise également des épices telles que l'aigus et la noix de muscade. Tout est ensuite aspergé de bouillon frais contenant du bœuf ou des tripes. Quand elle sera mangée, l'arôme de l'ail sent très fort. La sauce en goût frais est salée avec un bouillon délicieux. D'habitude, cette soupe générée est servie avec du riz chaud et une sauce chili, ainsi que divers aliments d'accompagnement pouvant être sélectionnés en fonction de vos goûts, tels que le saté d'escargot, le tofu et le tempeh. À Magelang, vous pouvez facilement trouver cette soupe à un prix relativement bon marché, environ 15 000 rupiah jusqu'à 20 000 rupiah par portion. Chers amis, c'était un magazine culturel intitulé La soupe de Senere de la province de Java Central. Merci à tous et à bientôt.
Voice of Indonesia.
Jabat tanganku mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Da 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 mungkin diriku masih ingin bersama kalian. Mungkin jiwaku masih haus sanjungan kalian.
Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée Une histoire classique chantée par Randy Pandugo. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.bonus.id. Chers amis, pour la rubrique suivante, écoutons l'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
Salutateur, bonsoir, voici l'Indonésie en couleur pour ce soir et en pour titre, l'équipe indonésienne remporte plusieurs championnats au Shell Eco Marathon 2019. Soyez toujours avec nous sur www.voice.id. Des étudiants de diverses universités d'Indonésie ont remporté le titre lors du Shell Eco Marathon Asia 2019 organisé en Malaisie. Dans cet événement, les étudiants sont mis au défi de construire une voiture et ensuite cette voiture est testée pour déterminer qui consomme le moins de carburant. Il y a plusieurs catégories qui sont contestées allant du type de concept urbain au type de prototype. Et il existe également plusieurs sources d'énergie telles que la combustion interne comme essence, diesel, éthanol et la batterie électrique ainsi que l'hydrogène. Suivi par 108 équipes de 18 pays, l'Indonésie a pu remporter plusieurs titres de cette compétition. L'équipe Sapu Angin de l'Institut de Technologie de 10 novembre, UITS, a de nouveau remporté la voiture urbaine la plus économique utilisant des sources d'énergie à essence. Les voitures urbaines sont des véhicules conçus pour économiser le carburant et ressembler à une voiture de tourisme. Les voitures urbaines sont réservées à un seul passager. Sapu Angin a atteint 395 km par litre. Outre ITS, les autres équipes indonésiennes qui ont également remporté les deuxième et troisième places sont le Garuda UNY Eco Team de l'Université de Yogyakarta et Sadewa de l'Université d'Indonésie. Dans le domaine des voitures électriques, l'Indonésie a remporté les victoires aux 2 et 3 positions de la catégorie du concept urbain de batterie électrique. La deuxième place a été remportée par l'Institut de Technologie de 10 novembre et la troisième place par l'Université indonésienne de l'éducation. Dans la catégorie des prototypes, l'équipe Rakata de l'Institut de Technologie de Bandung, ITB, a réussi à obtenir la troisième position avec des sources d'énergie à combustion interne ou éthanol. En utilisant cette voiture faite par ITB, vous pouvez aller de Jakarta à Surabaya avec seulement 1 litre d'éthanol. Cela peut arriver parce que l'équipe Rakata d'ITB a obtenu 926 km par litre. C'est le dernier record de l'Indonésie dans la classe des prototypes d'éthanol. Serviteur, c'est l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre attention. À bientôt.
lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu, kue coklat balon menawani pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Lembaran foto hitam putih. Kembali teringat malamku, hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih. Aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu.
Voice of Indonesia.
Oh, indahnya. ini.
Bukan hanya rasa, rasaku saja, rasaku sendiri.
Ada aneh saja dengan apa yang kurasa. Bergetar di dada buatku merana. I've got the feeling, cause you're making me smiling. Thinking of you, pusing.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Il y a de l'amour » chantée par Smith. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons présenter une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Ces auditeurs auditrices, beaucoup de médias ont été utilisés par les saints islamiques pour diffuser les enseignements de l'islam. L'un d'entre eux est par des arts. Les da'wah par des arts ont été faits par des saints islamiques d'Indonésie pour diffuser l'islam. Tombo Hati est l'une des chansons créées par Sunan Bonang. Cette chanson explique les étapes du traitement de foi. La première est de lire le Coran et sa signification, car le Coran contient une explication très détaillée de divers problèmes de la vie. La seconde est de diriger la prière du soir, car elle se rapprochera de Dieu. La troisième est de se réunir avec des personnes saintes qui peuvent influer directement sur le comportement qui est louable pour que cela profite à la vie. La quatrième est le jeûne qui peut s'entraîner à faire preuve de patience pour faire face aux divers problèmes de la vie. La cinquième est de prolonger le zikr de la nuit, ce qui rapprochera l'esprit et le cœur du grand cœur de Dieu. Ces solitaires, voici la chanson intitulée « Tombo Hati ».
Voice of Indonesia.
Salat wangi. ada lima perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya.
Chers auditeurs et auditeurs dans le monde entier, cette émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.bonus.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.